La chronique du désenfumage sur Air d'OTAN Gaillac et Radio Albigès. Les canuts de la terre. On peut ainsi qualifier la majorité des agriculteurs actuels. Mais pourquoi les canuts ? Petit rappel historique, les canuts étaient les travailleurs de la soie, principalement installés à Lyon au XIXe siècle. Les maîtres tisserands étaient propriétaires de leurs outils de production, mais c'était en fait des travailleurs à façon pour des négociants banquiers, les soyeux, qui leur procuraient la matière première, leur commandaient les produits et fixaient les prix. L'effondrement des cours entraîna la révolte des canuts. N'est-ce pas, à l'heure actuelle, la situation de la plupart des agriculteurs ? Mais revenons sur l'évolution qui a vu passer la classe paysanne d'une économie de subsistance à une économie marchande. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire et nourrir le pays. Durant la guerre, les USA avaient développé un énorme complexe militaro-industriel. Le plan Marshall en 1947, sous couvert d'aider à la reconstruction, constituait le débouché de ses capacités industrielles. La Révolution verte a présenté plusieurs dimensions, remembrement, mécanisation, développement des engrais et produits phytosanitaires. En moins d'une génération, la classe paysanne va vivre une révolution culturelle. Alors que la culture paysanne considérait l'endettement comme un péché mortel, l'endettement allait devenir non seulement la règle, mais le signe du progrès. Alors que la pratique agricole reposait sur des savoirs ancestraux liés à la terre, toutes ces bases allaient disparaître. Il ne s'agissait plus de cultiver la terre ou d'élever des animaux, mais de les exploiter. Le sol devenait un simple support minéral, le lien au sol disparaissait, les élevages hors sol prenaient le dessus dans lesquels les animaux étaient nourris dans ces lages d'aliments industriels des quatre coins du monde. Alors que le paysan raisonnait sur le temps d'une génération, l'exploitant agricole allait peu à peu se retrouver dans une vision à court terme. Tout cela avec comme objectif de fournir une alimentation à bas prix pour permettre à la population d'accéder à d'autres consommations. Pari réussi, puisque la part de l'alimentation dans le budget des ménages allait passer de 42% en 1950 à 35% en 1960 et à 20% en 2014. Ce fut aussi la création de l'Europe agricole. Les lois de 1962 et 1963 allaient faire entrer l'agriculture française dans le productivisme et l'exportation. La paysannerie allait disparaître. Aide et prix garantis allaient faire le tri et continuer à faire disparaître les fermes non rentables. La population active agricole était de 3,9 millions en 62. En 82, il n'y avait plus que 1,6 million d'agriculteurs. 490 000 en 2010. 389 000 en 2020. 75% de disparition en 40 ans. Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture de 1961 à 1966, est père de l'Europe agricole, allait exprimer ses regrets à la fin de sa vie. Dans son livre « Un vieil homme et la terre » en 2004, « J'ai favorisé le développement d'une agriculture productiviste. Ce fut la plus grosse bêtise de ma vie. » Il propose dans ce livre deux principes. Que chaque pays produise sa propre nourriture et que chaque pays rémunère ses producteurs de nourriture de façon à ce qu'ils aient une vie décente. On en est loin. Reprenons cette description de la production faite par Albert Jacquard dans « J'accuse l'économie triomphante ». Les éléments nécessaires pour produire du blé étaient autrefois la terre, le soleil et la sueur des bêtes et des hommes. Aujourd'hui, la terre ne compte guère, les animaux ont disparu, les hommes continuent à se fatiguer, différemment mais au moins autant qu'avant, et le reste des ingrédients est fourni par l'industrie. Certes, le rendement à l'hectare s'accroît, mais ce terme n'a plus le même sens. Il faudrait comparer la récolte non à la surface qui lui est consacrée, mais à l'ensemble des produits de toute nature qu'il a fallu consommer pour l'obtenir. Le bilan est alors beaucoup moins glorieux. Sans oublier le coût des pollutions induites qui détruisent peu à peu l'écosystème, le coût du déplacement des populations qui avaient un toit au village et pour lesquelles il faut construire des bars et des tours dans les grands ensembles. Dès la fin des années 60, ce modèle agricole était critiqué. D'une part pour son caractère destructeur de la terre avec l'apparition des mouvements d'agriculture biologique. Nature et progrès étaient créés en 1964. D'autre part, des paysans réalisaient qu'ils perdaient le contrôle de leur travail. Parmi eux, Bernard Lambert publiait en 1970 « Les paysans dans la lutte des classes », qui constate la mainmise du capitalisme sur l'agriculture, dénonce la prolétarisation des paysans. Pour lui, liés par contrat à des groupes capitalistes, les paysans perdent toute indépendance et deviennent des salariés à domicile, des canuts. Né en 1931, formé par la jeunesse agricole chrétienne, Bernard Lambert reprend la ferme en 1951 et se lance dans le productivisme et avec la production de poulets. Il devient secrétaire général de la FDSEA de la Loire-Atlantique en 1965, mais à partir de là, il diverge. Il crée le journal Vent d'Ouest, organe du mouvement des paysans travailleurs qui aboutira en 1986 à la création de la Confédération paysanne par fusion des organisations agricoles qui combattent le productivisme. Personnellement, c'est cette lecture et la découverte de l'écologie naissante qui m'ont conduit à l'agriculture biologique et à Nature et Progrès. C'est à partir des années 70 que consumérisme et mondialisation allaient devenir dominants. Fini les petits commerces, l'épicerie de quartier, place au super et bientôt hypermarché. Les producteurs pesaient de moins en moins face à la grande distribution et la consommation a changé. Moins de produits bruts, de plus en plus de produits transformés par l'industrie agroalimentaire. Il n'y a pas que les producteurs qui ont perdu le lien au sol. Côté mondialisation, l'émergence des grands groupes agroalimentaires privés ou coopératifs allait donner une dimension nouvelle à l'économie de marché et la faire accéder à une dimension planétaire. Les accords de libre-échange allaient aggraver la prédominance d'une agriculture bas de gamme. Ces traités ont pour but d'augmenter les débouchés des productions d'un pays en diminuant les droits de douane, donnant. Sauf que la plupart du temps, ils constituent une concurrence déloyale pour nos productions agricoles. En favorisant l'entrée de productions de coûts très inférieurs ne respectent pas les normes européennes, tant sociales qu'environnementales. Fin 2023, le Parlement européen approuve un traité avec la Nouvelle-Zélande. Les secteurs de l'automobile et du machinisme agricole ou industriel sont gagnants. Par contre, les productions agricoles vont en faire les frais, en particulier l'élevage et le mouton et les produits laitiers. Ces accords ont aussi un effet désastreux sur le plan écologique. Ils augmentent les transports intercontinentaux et donc la production de gaz à effet de serre et indirectement la déforestation. Prenons l'exemple d'un de ces grands groupes, le groupe Avril. Avec 73 sites industriels dans le monde, il est présent dans les huiles, le sueur, Puget, l'alimentation Sanders pour les animaux d'élevage, le commerce international des céréales, les agrocarburants ou encore la chimie des huiles et protéines végétales. Chiffre d'affaires 2022, 9 milliards d'euros. Résultat net, 218 millions d'euros, soit 45% de plus qu'en 2021. Et pourquoi parler de ce groupe ? Parce que son PDG n'est autre que le président de la FNSEA, exploitant la ferme familiale de 700 hectares. Certes, un profil modèle pour la défense des producteurs. Piégés dans cette économie mondialisée, les exploitants agricoles voient les revenus de la plupart d'entre eux laminés, alors que leur outil de travail valent des millions. Et depuis ces décennies, l'agriculture est sous perfusion. Les aides de l'État la maintenant en vie, comme le RSA permet aux pauvres de ne pas sombrer. Les manifestations agricoles sont justifiées, mais malheureusement, ils restent accrochés à un modèle de production en faillite. Les résultats dont se vante la SNSEA en sont la preuve. Suspension du plan de limitation des pesticides, le plan Ecophyto, relance de l'irrigation, des bassines, mise sous tutelle des organismes de contrôle, réduction des recours contre les projets. Donc on va poursuivre dans la dégradation de la santé des paysans et des paysannes, de nos sols et de notre environnement. Et on va continuer à engraisser les multinationales, des pesticides et la grande distribution. Tout cela constitue un suicide collectif de l'agriculture par sédation productiviste. Tout en soutenant la colère agricole, la Confédération paysanne souligne l'ambiguïté des revendications. L'agriculture française tourne en rond depuis des décennies, derrière la sacro-sainte compétitivité chère à la grosse business et au marché mondialisé. Résultat, un plan de licenciement massif dramatique qui tue nos campagnes. Elle réclame la sortie du libre-échange et du productivisme destructeur et une réelle politique d'installation de paysannes et paysans pour arrêter l'hémorragie. Sortir du modèle productiviste et aller vers une agroécologie paysanne, bien sûr, mais impossible tant que la production sera sous la dépendance du consumérisme. On le voit bien avec la dérive productiviste d'une certaine agriculture biologique officielle inscrite dans ce modèle économique. Le consumérisme a besoin d'une production mondialisée, de cette fausse diversité des aliments à travers des multitudes d'étiquettes pour un même type de produit industrialisé. Le consumérisme a besoin de la mondialisation pour répondre aux prétendus besoins. La meilleure façon d'exprimer notre soutien à l'agroécologie paysanne est la déconsommation. Revenir aux produits bruts pour une cuisine simple, aux productions locales, revenir aux céréales et aux protéines végétales, sans abandonner les produits des animaux, mais en consommant peu mais de la vraie viande, pour que les agriculteurs cessent d'être les canuts de la terre. Bon appétit et bon courage. C'était la chronique du désenfumage sur Air d'Otan, Air d'Otan Gaillac et Radio Albigès.